Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Il connaît tous les dessous de la politique.
L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Cube Radio.
Aujourd'hui, à Là-haut sur la colline, l'imam Hassan Guillet condamne la décision de Québec de traiter les lieux de culte comme des bars dans la zone orange et donc de limiter les visiteurs à 25 ou 50 personnes. Il co-signait hier avec des représentants catholiques, juifs, chrétiens, orthodoxes et autres un communiqué dénonciateur de cette injustice, comme ils l'écrivent, de la part de Québec à l'égard des religions. Le parti pris pour la laïcité serait-elle en cause? Mais d'abord, parlons agriculture.
Là-haut sur la colline.
Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
La COVID nous a fait prendre conscience de l'importance de l'autosuffisance alimentaire. On en discute avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, André Lamontagne. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Bonjour. C'est pas la première fois, là, vous lancez aujourd'hui une stratégie, faut dire, là, d'autosuffisance alimentaire. C'est pas la première fois qu'un ministre met l'accent sur l'achat chez nous en agriculture. Et en 2013, il y avait François Gendron qui lançait une politique de souveraineté alimentaire. C'est un autre mot, peut-être un peu plus chargé. Vous en inspirez-vous?
Ben, en réalité, aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est vraiment une stratégie nationale pour l'achat d'aliments québécois dans les institutions publiques.
Okay.
Alors, c'est sûr qu'ultimement, ça va avoir une incidence, si on veut, sur notre autonomie alimentaire, là, mais ça vise vraiment l'achat par les institutions publiques d'aliments du Québec.
Donc, c'est un projet d'achat chez nous, d'abord et avant tout. Et là, j'imagine que... Pour les aliments, c'est ça. Donc,
Pour les institutions publiques.
Les écoles, les hôpitaux, je dirais les prisons aussi. Est-ce qu'il y a autre chose?
Oui, ben en réalité, dans un premier temps, là, ce qu'on vise, là, c'est tous les établissements de santé et d'éducation. On en a 1858, honnêtement, ils ont tous répertoriés, là.
Okay. Puis
ça compte pour 77 % de tous les achats institutionnels.
77,
après ça, on a le service à l'enfance, on a les pénitenciers dans les autres bureaux gouvernementaux, transport et tout ça. Là. Ça, c'est un autre, je dirais, près de 1600 organismes là, qu'eux autres comptent pour l'autre 23 % là, qui reste pour avoir notre 100 % là.
OK. Alors là, vous commencez par le 77 % des achats, c'est ça que si je comprends?
Oui.
Okay.
Tout à fait. Mais en même temps, honnêtement, à partir du moment où on lance cette mobilisation-là, où on lance le répertoire des aliments québécois, bien, naturellement, on s'attend aussi à ce que ça ratisse plus large aussi. Là. C'est parce qu'il y a comme un effet d'entraînement qu'il va y avoir sur le terrain. Là. Mais la première cible, effectivement, là, c'est tous les établissements d'éducation et puis de domaine de la santé.
Est-ce qu'on sait, dans ces établissements-là, quel est le pourcentage actuel de consommation de produits québécois?
Bien, on est vraiment parti, M. Robitaille, là, on n'avait à peu près pas d'informations. Alors, à travers tout ce qu'on a réussi à déblayer là, depuis 15 mois, là, nous, on en est venu à peu près à une moyenne d'à peu près 45 % qu'on aurait dans les institutions publiques. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des institutions publiques, c'est moins de 30 %. Mais on en a d'autres qui font autour de 50 %. Puis on a eu des projets pilotes depuis une quinzaine de mois là, où des institutions ont été accompagnées ou qui étaient mobilisées. Mais là, on s'est vu qu'on a obtenu des 60, 65. L'ITHQ, tantôt, Mme Frula parlait qu'il était à 80 %. On a des écoles au Québec, Louis-de-France, à Trois-Rivières, qui est à un peu plus que 80 %. Mais ce qu'on s'est fixé comme première cible, là, c'est on s'est dit, on est à 45 de façon générale. L'objectif, dans un premier temps, c'est de monter ça à 60.
OK. Donc, vous avez des chiffres, parce que là, il y a plein d'autres ministres qui sont passés avant vous qui m'ont toujours dit qu'il n'y avait pas de chiffres. Je pense à Pierre Paradis qui aurait voulu faire ça et qui dit il n'y a pas de chiffres, j'arrive pas à avoir des chiffres sur la consommation et les achats. Entre autres, à cause des distributeurs. Tu sais, c'est les distributeurs ne donnent pas toujours l'information.
Ben, honnêtement, on a fait un travail de moine.
Oui.
Depuis décembre 2018, là, janvier 2019. Là, puis grosso modo, on arrive aujourd'hui précisément, c'est sûr que c'est, on va avoir, les chiffres ils vont être de plus en plus solides au fur et à mesure que les entreprises vont se soumettre, ou les organisations vont se soumettre, ils vont souscrire à des cibles. À partir du moment où là, ils vont se mettre à compter. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, à part les quelques projets pilotes, peut-être une cinquantaine qu'on a eu au Québec, ben, les entreprises, ils comptent pas. Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres quand les entreprises comptent pas. Mais les estimés qu'on a, grosso modo, aujourd'hui, là, c'est que les achats d'aliments comme tels, ce sera à peu près $1 milliard. Et puis, les achats d'aliments québécois, là, selon tous les calculs qu'on aurait fait ici au MAPAC, là, ça sera autour de 450 millions. Là.
Si on monte ça à 60 % ça va représenter combien de plus dans les poches nos agriculteurs, nos producteurs?
Sur quatre ans, c'est, les calculs qu'on a, c'est à peu près 180 millions.
OK, donc...
Si on va chercher notre titre de 60 %, là, on parle de 180 millions. Puis chaque fois qu'on augmente de 1 %, ben, c'est quelques dizaines de millions qui se rajoutent. Là.
Mais ça, est-ce que ça veut dire que l'État va payer plus cher? Parce qu'on sait bien, souvent, on achète des produits de l'étranger, même sans savoir, parce que qu'on regarde principalement le prix. Je pense, ma blonde hier est rentrée chez nous avec des bleuets. J'ai dit, regarde, ils viennent d'où tes bleuets? Du Pérou.
Ouais,
en pleine saison des bleuets, c'est incroyable. Elle avait pas remarqué. Il faut développer l'attention à la provenance finalement.
Il faut développer l'attention à la provenance. Puis je vous dirais de façon générale, nos entreprises de transformation alimentaire, il y a presque 70 % de l'agriculture du primaire au Québec est transformée en aliments préparés au Québec. Là.
Okay.
Et puis, la majorité de ces entreprises-là sont très compétitives. Où on va intervenir vraiment, c'est au niveau de l'accompagnement, au niveau des politiques d'approvisionnement. Quand on a le partenariat avec les THQ, on va avoir vraiment des conseillers en approvisionnement local. Là. C'est que ces gens-là, ultimement, vont faire en sorte que les institutions, à partir du moment où ils vont focusser sur des menus qui vont comprendre des aliments québécois, ben il y a des suggestions qui vont leur être faites, puis en allant avec ces suggestions-là, en incluant une question de saisonnalité aussi de certains aliments, en allant aussi on encadre aussi des pratiques au point de vue du gaspillage alimentaire. Je dirais, si on met tout ça ensemble, là, jusqu'à 60 % là, d'aller monter ça, l'enjeu du prix des aliments, là, c'est pas un enjeu qui est significatif. Plus on va vouloir aller haut, là, à un moment donné, là, ça peut devenir plus pointu. Mais dans un premier
Qu'est-ce
temps...
Qu'est-ce que vous voulez dire, plus on veut aller haut?
Ben, c'est-à-dire, plus on veut monter 70, 75, okay. 78, ben là, à un moment donné, ça devient de plus en plus, tu sais, le plus facile. C'est sûr qu'aujourd'hui, sans aucun effort, on dit que les institutions, de façon générale, c'est 30 et 40 %.
Okay?
Mais quand on est rendu, qu'on se mobilise, qu'on est rendu à 66, 68, 70, ben, à un moment donné, ça devient de plus en plus difficile un peu. Puis là, ben peut-être que le facteur de prix, éventuellement, sur certains aspects, là, peut venir jouer, là, mais on n'est pas là encore. Là. Une chose importante, ça va être d'arrimer les marchés avec la demande. Ça va se refléter au point de vue régional.
Souvent, dans ces grandes politiques-là, on oublie les petits producteurs agricoles, puis il y a une nouvelle génération de petits producteurs qui font du bio, notamment. Est-ce qu'ils sont touchés par votre stratégie? Est-ce qu'ils sont considérés dans cette stratégie?
Bien, tout à fait. L'objectif, là, la mise en place d'une équipe de conseillers en approvisionnement local, ça va viser justement ça. Oui, on a... Encore là, M. Robitaille, c'est parce que il y a des grandes institutions qui ont certaines politiques d'achat, tu as des plus petites institutions, alors il y a différents marchés qui vont pouvoir être tenus en compte, mais la question de l'accompagnement des institutions publiques là, va certainement amener une dimension de la disponibilité régionale des produits. Là.
Parce que souvent les grandes politiques se font avec l'UPA, mais il y a l'Union paysanne aussi.
Dans le tout, c'est pas, il n'y a pas de lien avec, peu importe, des syndicats qui représentent des producteurs. Ce qui est important, c'est que, moi, quand je suis arrivé en poste, puis j'ai posé des questions, pour un acheteur d'un organisme, d'une institution publique, un petit, un moyen, un grand, là, il n'y avait aucune source, on veut coordonner de quels sont les aliments qui sont disponibles au Québec, qu'est-ce qu'on produit au Québec. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vient de lancer, c'est le répertoire des aliments du Québec. Dans un premier temps, au moment où on se parle, ceux qui peuvent s'inscrire au répertoire, c'est ceux qui sont inscrits auprès d'une plateforme qui s'appelle GS1. Ça, c'est vraiment tous les transformateurs, puis les producteurs, nos maraîchers, c'est des produits qui sont emballés puis sont distribués dans les supermarchés. Je vous dirais que la majorité de ces gens-là sont membres du GS1. Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'ici la fin de 2021, on veut mettre en place un autre volet de la plateforme du répertoire des aliments qui va permettre aux plus producteurs ou ceux qui ne sont pas inscrits auprès du GS1, qui sont dans d'autres circuits de distribution, qui vont pouvoir inscrire d'eux-mêmes leurs produits, leurs différents produits sur le répertoire des aliments du Québec. Alors, quelqu'un va être dans une région quelque part, il y a des décisions à prendre, il va avoir accès aux informations, naturellement, que nos producteurs, nos transformateurs vont avoir rendues disponibles.
Mm-hmm. L'autre jour, je suis allé manger au Café du Parlement, puis c'est la même chose pour le restaurant, le parlementaire, quand il va ouvrir. Il y a des tomates qui ont été cultivées devant le Parlement. Est-ce que ça, c'est pas aussi une solution pour l'autosuffisance alimentaire? C'est que les restaurants, les institutions, puis même les particuliers se mettent à produire eux-mêmes une partie de leur nourriture.
Bien, tout à fait. Je vous dirais que moi-même, cet été, je mange des petites tomates que j'ai cultivées avec un de mes voisins.
Ah, ben j'allais vous poser la question. Ouais, vous faites un potager vous-même?
Tout à fait, là, oui, des petites tomates, là, mais j'ai un de mes frères qui demeure au lac Saint-Jean qui était tout fier de m'envoyer pendant l'été des photos là, des bacs qu'il a mis en place pour cultiver une partie de ses légumes. Ben écoute, il n'y a rien qui exclut rien. Là. Aux parlementaires, d'ailleurs, sont déjà, de ce qu'on me rapporte, là, sont déjà au-dessus de 60% là, au niveau des aliments québécois là, qui sont utilisés là, à la cafétéria là, pour préparer, pour répondre à la demande là, quand on est là. Fait qu'il n'y a pas écoutez, les opportunités sont là. Il s'agit de comment on peut encore...
Mais est-ce que l'État peut aider? Est-ce que l'État
se rend compte encore plus?
Est-ce que l'État peut aider cette production locale-là, cette production hyper locale à l'occasion? Est-ce qu'il pourrait y avoir un crédit d'impôt à la création d'un potager ou quelque chose de même? Ou?
Ben, on aide, je vous dirais honnêtement, là, on aide déjà beaucoup. Il y a toutes sortes de programmes d'aide. Moi, juste l'an passé, là, il y a 128 nouvelles entreprises, principalement des petits maraîchers là, qui ont lancé leur entreprise. On a 58 autres, je pense au-dessus de presque 200 entreprises qui sont de petite taille, qui visent exactement ce dont vous me parlez, là, qu'on est venu en soutien. On a toutes sortes de programmes pour les accompagner quand ils veulent s'acheter des abris pour faire des serres. On a un programme de serres là, que je vais annoncer cet automne de soutien à toute l'industrie céréricole où le volet pour les plus petits va être très costaud là, puis il va y avoir beaucoup d'accompagnement. Honnêtement, le soutien là, du ministère puis de l'État là, pour toutes les classes, si on veut, là, des types d'agriculture, il est présent. Là.
Est-ce que vous avez mesuré depuis la pandémie là, un plus grand intérêt des Québécois pour les produits québécois, donc la fameuse étiquette produit au Québec? Est-ce qu'on sait si ça marche mieux? Parce que on le sent, là, les gens en parlent un peu partout, qu'ils veulent consommer davantage québécois. Moi, j'ai un ami aussi qui a un investissement dans un vignoble. Il n'en revient pas à quel point ils ont vendu du vin cette année. Il y a vraiment une préoccupation. Est-ce que vous l'avez mesuré, vous?
On l'a pas mesuré, mais c'est-à-dire, pour le mesurer, on a juste à appeler à tous nos producteurs. Mais c'est quelque chose, on a ces échos-là de partout, que ce soit nos fromagers, nos maraîchers, que ce soit nos vignerons. Tous les secteurs là, vont très bien. Au niveau du bœuf aussi, on a vu une belle progression. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y a comme une sensibilisation de la population là, d'un dernier mois, qui est exacerbée, si on veut, par l'appel un peu du premier ministre, ben là, pour tout le secteur bioalimentaire, là, c'est de saisir la balle au bon, oui, puis d'amener ça à une autre étape. Là. Puis un des véhicules qu'on a pour faire ça, c'est Aliments du Québec. Aliments du Québec, là, c'est une organisation qui appartient aux acteurs du secteur bioalimentaire, là, les transformateurs, les producteurs, les détaillants, c'est comme un OBNL, c'est un OBNL dont sa mission, c'est de faire la promotion des aliments du Québec, des aliments préparés au Québec, et puis d'être auprès des détaillants, comme là, on a le programme des Aliments du Québec au sein des institutions, on a au menu des restaurants. Alors, on va donner encore davantage de gaz, si on veut, à Aliments du Québec là, pour pousser ça encore plus loin. Et après ça, ben chacune des filières. Écoutez, comment le Québec est organisé, là, mais les différentes productions et tout ça là, sont quand même assez agressives là, au niveau de la mise en marché de leurs produits, tout ça. Fait que si on prend tout ça ensemble, là, puis on prend l'engouement qu'on a senti, qu'on a vraiment expérimenté depuis quelques mois, là, on est vraiment dans une bonne zone là, pour amener ça à une autre place.
Ben, merci beaucoup. Cette conversation m'a donné faim. Alors, je vais aller me chercher un sandwich aux tomates de l'Assemblée nationale au Café du Parlement.
Bon, c'est un plaisir, M. Robitaille. Bon
plaisir. Plaisir partagé. Merci, André Lamontagne, okay. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline.
La politique autrement dit. Cube Radio.
Les leaders religieux du Québec hier dénonçaient une injustice par communiqué et un d'entre eux est au bout du fil. Bonjour Hassan Guillet, représentant de la communauté musulmane du Québec.
Bonjour M. Robitaille, bonjour à tous les auditeurs.
Donc cette injustice, quelle est-elle exactement? C'est j'imagine le confinement ou les règles de confinement qui sont trop grands selon vous en zone orange pour les lieux de culte.
Oui, effectivement. Mais ce qui arrive, nous, plutôt on veut voir c'est quoi les problèmes qu'on essaye de régler, puis on va trouver ensemble une solution aux problèmes. Bien sûr, nous avons tous les mêmes intérêts dans la société. Nous avons tous un intérêt de faire face à cette pandémie qui est sans précédent dans notre société. Il n'y a personne parmi nous qui veut être la source ou un agent de propagation du virus.
Mais justement, pourquoi c'est grave qu'il y ait entre 25 et 50 personnes au lieu de 250? Parce que si les lieux de culte sont traités comme des cinémas, c'est 250. Comme des bars, c'est 25 ou 50. Or, pourquoi ça change selon vous? C'est ça qui vous choque, c'est que vous avez été traité comme des bars.
Exactement, dans des bars, puis même la définition, comme il disait dans les mêmes communiqués, c'est une place où les gens consomment de l'alcool sur place. Et je ne croirais pas que les lieux de culte, encore moins les mosquées, qu'on consomme l'alcool. Comme vous savez, les musulmans ne prennent pas l'alcool, même
ouais,
pas oui. À la maison.
Oui, mais pas. Les catholiques, il y a du vin de messe quand même.
Ok, c'est correct. Mais qu'ils trouvent c'est quoi les problèmes, puis qu'ils essaient de régler. S'ils disent, ok, on ne veut pas de consommation d'alcool, mais nos frères catholiques ne vont pas consommer de l'alcool. Ils ont dit la distanciation, on respecte la distanciation. Et là, l'argument qu'ils ont utilisé pour les cinémas et les salles de spectacle, puis on est d'accord avec ça, c'est là une place où les gens sont immobiles ou presque immobiles.
C'est
ça. Ou qui ne parlent pas ou qui parlent peu. Non, c'est ça nos lieux de culte. Nous, je vous donne un exemple des mosquées, puis ça s'applique aux synagogues et aux églises aussi. C'est juste les imams qui parlent. Les autres écoutent religieusement, entre guillemets.
Oui. OK. Mais chez les catholiques, on a quand même des rites qui Seigneur, prend pitié, on parle, on chante.
Ils peuvent mettre des barèmes pour ça, c'est-à-dire qu'on met les protections quand on veut chanter, on peut mettre des barèmes sur les activités même. Mais venir mettre tout le monde dans les mêmes bateaux puis fermer ou limiter les accès aux lieux de culte comme c'était des bars, ça prend une exagération de considérer même nos frères catholiques où ils consomment un peu d'alcool, où il y a les chorales. Ça ne s'apparente pas au bar, ça s'apparente aux salles de spectacle.
Mais de toute façon, pourquoi c'est grave quand même? Il pourrait y avoir 25 personnes ou 50 personnes.
Mais je vous donne un exemple. L'oratoire Saint-Joseph. Vous m'avez consulté comme je suis imam, mais quand même, je représente la table des concertations, puis je parle au nom des fidèles.
Ouais.
L'oratoire Saint-Joseph, qui peut suffire à 2000 personnes. Mm-hmm. Puis on dit non, dorénavant, tu peux seulement mettre 25 personnes parce que les bars du coin, il est limité à 25 personnes. Vous voyez l'absurdité de la logique. Il n'y a pas de logique. Dans un lieu de culte, les gens sont assis à leur place, ils ne bougent pas, ils écoutent leur prêtre ou leur rabbin ou leur imam.
Mais ce n'est pas ce que M. Arruda, le directeur de la santé publique, a dit tout à l'heure. Il dit on a vraiment dans nos... dans des lieux de culte, une participation, une proximité plus grande, alors que quand on va dans un cinéma, on a son masque, on s'assoit, on écoute, puis après ça, on remet son masque et on part.
Oui, mais on fait la même chose dans les lieux de culte. On a imposé la distanciation. Au début, c'était 2 mètres, on l'a respecté encore une fois religieusement. Et là, après, ils ont dit, OK, 2 mètres quand les gens sont en mouvement. Mais une fois qu'ils sont à une place immobile, c'est 1,5 mètre. Mmh. Et là, on les respecte aussi. Donc, c'est la même chose. Quand les gens sont mobiles, c'est 2 mètres. Quand ils s'assoient, c'est 1,5 mètre. Qu'ils viennent, cette proximité, qu'ils viennent nous dire, la distanciation, ça s'applique à tout le monde, puis c'est pas un luxe, c'est pour nous protéger, protéger nos enfants, c'est normal. On veut protéger la société, on veut pas que les lieux de culte soient des centres de propagation de l'épidémie. Mais un lieu de culte, l'oratoire Saint-Joseph ou la grande mosquée de Montréal ou de Québec, ne sont pas comme les bars du coin, on consomme pas de l'alcool.
De toute façon, c'est pas l'alcool qui est en cause.
Mais non, ouais. C'était dit où il y a les gens qui consomment, qui achètent l'alcool, ils les consomment sur place.
OK. Pensez-vous qu'il y a un lien à faire entre le parti pris du gouvernement Legault pour la laïcité? Donc, qu'on est plus sévère à l'égard des religions et des religieux?
Savez-vous quoi? Moi, je ne vais pas glisser sur les terrains idéologiques ou les terrains politiques. Je laisse ça aux politiciens.
Oui. Vous en êtes un, M. Guillet, quand même. Vous avez fait de la politique.
J'ai l'été. Et j'ai payé les prix très chers. Ce n'est pas le moment d'en parler. Si vous voulez, on peut parler après. Mais
quand
on se concentre sur les problèmes qui sont en face de nous. On a des fidèles qui ont passé leur vie à aller à leur mosquée ou à leur église ou à leur synagogue. C'est une source de recueillement, c'est une source de pour charger leur batterie spirituelle et émotionnelle. Mm-hmm. Et ça les aide à leur équilibre émotionnel. Et ça aide, même si la société en général va profiter du fait quand il y a cette harmonie sociale. Quand il y a une partie de la population qui se sent biaisée, qui se sent traitée injustement, ça aide pas à la cohésion sociale et même à la santé mentale des gens.
Dans les lieux de culte musulmans, il y a combien de personnes en moyenne célèbre?
Ça dépend des mosquées. On a des mosquées comme la grande mosquée de Québec, et vous êtes de Québec, vous la connaissez, elle est très grande.
Oui.
Comme on a des petites mosquées. Petites mosquées, peut-être, à la rigueur, peut-être, n'étaient pas affectées. Si on applique la règle de distanciation, peut-être à recevoir 25 ou 30 ou 40. Mais quand on parle de la grande mosquée à Brossard ou au centre-ville de Montréal ou à Laval, oui, ils peuvent suffire à 300, 400 personnes, mais on est limite. Les limites qui étaient avant, c'était, on respecte la distanciation, mais les maximums, c'est 250. Mm-hmm. Donc, comme l'oratoire Saint-Joseph, ils peuvent suffire à 2000 personnes, mais donc c'est pas la limite de la distanciation qui s'appliquait, c'est la limite du chiffre absolu qui est 250 personnes. Mais dans les petites mosquées, ce n'est pas le chiffre de 250 personnes, c'est la distanciation. Avec la distanciation, on ne pourrait pas remplir plus que la mosquée peut prendre des fidèles.
Donc, est-ce que vous avez repris contact avec le gouvernement? Parce que hier, dans votre communiqué, là, vous disiez, il n'y a pas de dialogue, ils ne répondent pas à nos lettres, ils ne répondent pas à nos courriels. Vous étiez très, très sévère, là, tout le groupe de religieux. Là, puis il y avait là-dedans le cardinal Lacroix, catholiques. Oui. Toutes les communautés religieuses étaient là à peu près.
Effectivement, c'est nous, on agit au nom de la table des concertations interconfessionnelles. Cette table représente plusieurs confessions. Il y a les catholiques qui sont une partie très intégrante là-dedans. Il y a les protestants, il y a les juifs, il y a les musulmans. Donc, on parle du même voix au nom de la communauté des fidèles. On veut pas des traitements défaveurs. Dès le départ de l'épidémie, on s'est réunis, on a lancé ça vous savez, le gouvernement.
Mais est-ce qu'ils répondent à vos questions? Est-ce que vous avez repris contact?
Les contacts n'étaient jamais coupés. Nous, on parle
votre communiqué hier, monsieur Guillet. Dans votre communiqué, vous disiez manque de dialogue.
Justement, je suis en train de vous répondre si ça vous dérange pas.
Oui, je vous écoute.
Donc, nous, notre contact, c'est surtout avec l'administration publique. Avec l'administration publique, ça va bien. Puis, on n'a jamais coupé les contacts. On a encore des contacts.
OK.
Mais ce qui arrive là où les liens de communication se coupent entre ce que l'administration publique dise et ce que le gouvernement décide. On dirait que c'est pas un manque de contact, de communication entre nous et l'administration publique, qu'il soit les ministères de la Santé ou autres. On dirait que c'est entre l'administration publique et les gouvernements. Donc, parce que je vous donne un petit exemple qui est très, très flagrant, très, très concret. Au début, on a développé un protocole pour justement protéger les citoyens. Et là, on l'a proposé, même on a eu une réunion, ou même deux, avec des personnes très haut placées dans le gouvernement de la fonction publique.
D'accord.
Et on leur a présenté les protocoles, ils l'ont beaucoup aimé, ils nous sont revenus avec des commentaires. On a intégré leurs commentaires, on leur a présenté, ils l'ont aimé, ils l'ont... Donc, il y a un protocole qui est approuvé, qui est mis en commun entre nous et l'administration publique. Mais c'est là quand on entend la conférence des presse, c'est comme un étudiant qui a bien fait ses devoirs, qui a bien ses examens, qui a bien écrit, bien répondu aux questions à l'examen.
Ouais.
Et quand il a la réponse, il s'attend à avoir un A, il a un F.
Je comprends, mais on est en zone orange, là. On vient de changer on vient de rendre les choses encore, les règles encore plus exigeantes parce que la deuxième vague nous guette et ça peut devenir une déferlante.
Mais je suis d'accord avec vous, M. Robitaille, on est dans la zone orange, mais les cinémas, il est dans la zone orange. La salle de spectacle est dans les zones oranges.
Mm-hmm.
Les buts, c'est pas zone orange ou zone jaune ou zone violet. Le but, c'est protéger la citoyenne.
Est-ce qu'il y a
à l'épidémie.
Parfait. Est-ce qu'il y a certains fidèles qui font passer la religion avant la santé publique? Donc, qui voudraient, qui seraient prêts à finalement... à outrepasser les règles de la santé publique parce qu'ils estiment que la religion est plus importante.
Pour vous dire la vérité, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que ça s'applique à tout le monde. Dans notre religion, à nous, comme musulmans, la vie humaine est sacrée.
Mm-hmm.
Donc, on est une religion très pragmatique de ce côté-là. Je vous donne un petit exemple rapide. Au Ramadan, un musulman est supposé faire le Ramadan, mais quand les jeunes dérangent sa santé, ou même sa santé en danger, il est exempté du déjeuner. Pas seulement il est exempté, ça devient un péché de déjeuner quand tu sais que les jeunes dérangent nuit à ta santé.
Bon, parfait.
Donc pour nous, il n'y a pas question de nuire à la santé de qui que ce soit, ni soi-même, ni autrui, au nom de la religion.
Il y a quand même des intégristes qui ne veulent rien savoir. On le voit aux États-Unis avec des chrétiens intégristes qui disent
«
Je suis protégé par le sang de Jésus, j'ai pas besoin de me protéger. »
Pas nous. Je veux dire, des intégristes, mon ami, il y en a partout.
Oui, oui.
Nous, on travaille pour les communs des mortels.
Mais c'est pour ça que j'ai parlé des chrétiens aux États-Unis, oui.
Oui. Mais ces gens-là, j'ai lu les nouvelles comme vous. Et on sait, il y a des intégristes partout, même chez les musulmans aussi, il y a des intégristes, il y a des partout. Mais nous, on essaye de protéger les communs des mortels, on essaye d'être des citoyens responsables et des bons musulmans, et des bons chrétiens, et des bons juifs, et protéger la société.
Merci.
Et nous, on a une obligation civique comme citoyens responsables, mais on a aussi une responsabilité devant notre Créateur de protéger la vie humaine, parce que c'est sacré, la vie humaine en islam, sacré, puis on ne met pas la vie humaine en danger.
Merci beaucoup pour cet entretien, Hassan Guier, représentant de la communauté musulmane au Québec. Puis la prochaine fois, je vous rappelle, puis je veux savoir quel prix vous avez payé pour votre tentative politique. Ça m'a intrigué. Les auditeurs de là-haut sur la colline aussi veulent sûrement savoir. Au plaisir.
Cube Radio.